Je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Matthieu et ensuite dans l'évangile de Marc. Matthieu 28, verset 19, et ensuite Marc, chapitre 16. Donc d'abord Matthieu 28, verset 19. Les dernières paroles de Jésus rapportées par Matthieu, quand il dit, au verset 18 déjà, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Quasiment les mêmes paroles rapportées dans l'évangile de Marc, chapitre 16 et verset 15. Puis il leur dit, Marc 16, 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. » Amen. Et au travers de ces deux textes, nous avons les paroles de Jésus qui posent les bases de toute œuvre missionnaire. Et comme on l'avait déjà médité, quand mettez les téléphones en vibreur, ça fait 2 euros par sonnerie. Voilà, moi je dois 2 euros parce que mardi soir j'avais oublié. Et mais personne n'a entendu. Ah bon? Alors, je reviens sur ce qu'on est en train de partager. Ce sont là les fondements de toute œuvre missionnaire. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et on a l'impression à la lecture en français que la mission c'est d'aller. Or, quand on le regarde dans le grec, et vous le regarderez bien prochainement pour tous ceux qui suivront la formation, la mission n'est pas d'aller, mais la mission c'est de prêcher. Et la mission c'est de faire de toutes les nations des disciples, tout simplement parce que quand on regarde le temps des verbes en grec, eh bien là où il y a l'impératif, ce n'est pas sur le premier verbe, c'est sur le second, et dans les deux versets. Alors je vous fais grâce à des explications, mais l'impératif, entre guillemets, l'ordre, c'est de prêcher et de faire de toutes les nations des disciples. Et si on traduisait par un petit peu, faire une paraphrase, la première partie, ça se traduirait plutôt ainsi, là où vous êtes. Là où vous êtes arrivé, pour quelque raison que ce soit des raisons professionnelles, que ce soit des raisons familiales, voire de voyage, pour quelque raison que ce soit, là où vous êtes. Et on le retrouve dans tout le livre des Actes des Apôtres qui souligne le début de l'Église, là où ils sont allés, quand c'était suite à persécution, quand c'était suite à une indication de Dieu par un don spirituel, quand c'était suite à des projets d'ordre professionnel, peu importe la raison, là où vous êtes, prêchez, et c'est là l'impératif. Là où vous êtes, faites de toutes les nations des disciples et annoncez la bonne nouvelle. Et c'est la mission. La base de toute œuvre missionnaire, c'est annoncer la bonne nouvelle, là où vous êtes. Cette dame, amie, est allée en Inde, et quand elle est arrivée là-bas, eh bien elle a annoncé, elle a fait l'œuvre de Dieu. Elle a annoncé la bonne nouvelle. Alors, je voudrais souligner quelques points. Qu'est-ce que la bonne nouvelle que nous avons à annoncer et qui est tellement bonne comme nouvelle qu'elle nous permet de dire aux autres, mais devenez comme nous, des chrétiens, des disciples du Seigneur. Faites de toutes les nations des disciples, non pas parce qu'on a à discipliner quiconque, mais parce que quand on connaît le Seigneur, on ne peut être qu'un modèle, on ne peut être qu'un exemple. Un chrétien, tout le monde attend de lui qu'il soit parfait. Alors, quelque part, c'est bien parce qu'on n'a qu'un objectif à atteindre, la perfection. Donc, tous ceux qui ont déjà atteint la perfection, la suite du message, ça ne vous concerne pas, vous pouvez déjà sortir. Voilà. Moi, je reste, parce que je ne l'ai pas encore atteinte. La bonne nouvelle, l'amour de Dieu, et je vous donne des références dans la parole, apparaît déjà dans le livre de l'Exode lorsque Dieu se révèle à Moïse et lorsqu'il l'envoie vers son peuple esclave en Égypte. afin de le libérer de l'esclavage de l'Égypte, symbole de l'esclavage du péché dans lequel le monde est tombé. Il lui dit, je suis celui qui suis. Et quand tu parleras de moi, tu diras l'Éternel. Et c'est moi qui t'envoie. Et voilà la bonne nouvelle. Celui qui est l'Éternel, nous, nous sommes éphémères. Tout ce qui nous concerne ne dure qu'un temps. Et nous sommes devant Dieu qui est éternel. Et qui a posé pour nous des bases d'éternité, pour le salut de notre âme. L'Éternel, y en a-t-il un plus proche que nous, dira le livre du Deutéronome, chaque fois que nous l'invoquons. Mais ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Rappelez-vous, pour vous qui êtes aujourd'hui des chrétiens engagés dans la foi, rappelez-vous la première fois que vous avez prié et que vous avez réalisé que là, dans votre chambre, si c'était la première fois le lieu de la prière, Dieu était là. Non seulement il était présent, mais il a entendu. Et ensuite, il a répondu à votre prière. Quel est le Dieu ? Il s'appelle l'Éternel. Notre Dieu, qui est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Qui est semblable à toi, dira le prophète Michée, qui pardonne, qui oublie les péchés. Mais ça, c'est extraordinaire. Quand on s'adresse à Dieu, c'est un Dieu qui fait des choses absolues et extraordinaires. Quand on lui demande pardon, il le fait. Et ensuite, il oublie, de telle manière que quand nous sommes pardonnés de nos péchés, Dieu porte sur nos vies un regard complètement différent. Nous, nous avons du mal à l'oublier et à oublier certaines choses. Dieu est capable de le faire. Et dans le livre du prophète Ésaïe, c'est cela la bonne nouvelle, il promet la venue du Sauveur. Il envoie celui qui est son Fils unique, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il l'envoie dans ce monde pour venir faire une œuvre de salut, pour venir chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que c'est pour cela que le Seigneur est venu. Il n'est pas venu pour juger le monde. Il n'est pas venu pour perdre le monde. Il est venu pour sauver l'humanité. Et il s'adresse à chacun d'entre nous pour cela, dans notre cœur. C'est pour cela qu'on retrouve dans l'Épître aux Romains la démonstration de l'amour de Dieu. Il a prouvé son amour envers nous. Et c'est cela la bonne nouvelle. Quand on regarde l'œuvre de la croix, quand on lit dans les évangiles ces moments où Jésus accepte de donner sa vie sur la croix, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et comme ça a été dit ce matin, de chaque côté de cette croix, il y avait comme l'humanité représentée. Des hommes coupables, et nous sommes tous coupables. Eux l'étaient à un degré qui a emmené les hommes à les mettre à mort. Peut-être que nous sommes pécheurs, mais pas au point d'être condamnables par la justice humaine. Mais devant la justice de Dieu, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et nous sommes tous auprès de cette croix avec deux réactions possibles. Et c'est là la représentation de l'humanité. À un moment donné, il y en a un qui va prendre conscience de ces moments qu'il est en train de vivre, surtout de l'état de son cœur et devant l'éternité de son état de perdition. Et il va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et une partie de l'humanité le fait. Dieu veut que ce soit le plus grand nombre qui le fasse, parce que la volonté de Dieu est que le plus grand nombre soit sauvé. Mais il y a une réalité terrible, c'est qu'une partie de l'humanité n'en veut pas. Et avec ces deux brigands, de part et d'autre de Jésus, il y a la représentation de toute l'humanité. À un moment donné, il faut que dans notre vie, on prenne conscience que devant Dieu, nous sommes pécheurs. Et que pour l'éternité, le seul moyen pour nous d'être dans le paradis, c'est d'obtenir le pardon de nos péchés. En s'adressant à celui qui est venu pour accomplir le pardon de nos péchés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus pour cela. Afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'humanité représentée, mais c'est chacun qui doit prendre sa propre décision. Et c'est cette bonne nouvelle que le Seigneur nous a envoyé tous à annoncer. Tous ceux qui l'ont déjà vécu ont pour mission de dire aux autres, Dieu vous aime. Et pour le salut de votre âme, c'est lui qui accomplit tout. Croyez-le, ouvrez votre cœur. Pour nous, il a quitté le ciel de gloire, il est venu sur la terre, il a donné sa vie sur la croix pour recevoir le châtiment qui nous donne la paix. Et pour nous, il est allé jusqu'au bout pour vaincre la mort qui ne faisait pas partie de l'œuvre de Dieu. Il est allé la vaincre sur son propre territoire. Il est ressuscité et il est pour nous désormais l'espérance de la vie éternelle. Et l'Écriture le dit, il nous prépare une place au ciel. Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour l'éternité. Lui, il prévoit une place pour vous. si vous ouvrez votre cœur. Et jusqu'à la fin de ce monde, il promet d'être avec nous tous les jours. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tous les jours, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et comme on l'a médité ces derniers temps, je vais finir avec cela. Il est celui qui veut aussi nous donner de son esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Un Dieu qui est esprit et qui veut venir habiter dans nos cœurs par son esprit. De telle manière que notre relation avec Dieu, elle n'est pas basée sur nos capacités seulement, sur nos efforts seulement, mais elle est basée sur une intime communion avec lui. L'Esprit de Dieu sonde nos cœurs, et il nous aide, et il nous fortifie, et il nous révèle la vérité de la parole de Dieu. Alors c'est pour cela que l'apôtre Jacques, et je terminerai avec une parole de l'apôtre Jacques, et en se rappelant que l'apôtre Jacques était le frère du Seigneur Jésus, auquel il s'est révélé après la résurrection. Et cet homme va écrire l'épître de Jacques. Vous pouvez lire l'épître de Jacques avec ce regard particulier. C'est le frère de Jésus qui parle après la croix, alors qu'il n'était pas là quand Jésus donne sa vie à la croix, mais Jésus ressuscité est venu se révéler à son frère. Et Jacques dira, c'est lui, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Quand on lit la parole, parfois, on prend un verset qui a toute son importance, mais c'est encore mieux de le remettre dans son contexte. C'est le frère du Seigneur Jésus qui, à un moment donné, ne croyait pas en lui, qui est en train de nous dire ce que lui-même a découvert, parce que le Seigneur lui a révélé, « Je suis venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Et toi, mon frère, par la chair, d'une certaine manière, tu en fais partie. Tu étais perdu, et je suis venu pour le salut de ton âme. » Quand j'ai donné ma vie sur la croix, tu ne croyais pas en moi, comme tous les autres. Et au moment dans notre vie, on ne croit pas en lui. Pour X raisons. Jacques ne croyait pas pour différentes raisons. Il n'était pas là quand Jésus donne sa vie à la croix, comme nous. Nous n'y étions pas. Mais il est venu se révéler à Jacques, comme il vient parler à notre cœur et nous dire, c'est pour toi, c'est pour vous que je suis venu sur cette terre, afin de donner ma vie sur la croix. C'est pour le pardon de tes péchés, c'est pour le salut de ton âme. L'apôtre Jacques va se convertir, et la plus grande surprise peut-être de sa vie, c'est que le Seigneur va faire de son frère un des apôtres, et l'apôtre Jacques écrira, approchez-vous de Dieu, et s'approchera de vous. Amen. Quelle grâce et quelle mission qui consiste à dire à quelqu'un, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. On va se reculer.